Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement l'envie de le lire à votre tour. Et ce, par la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et aujourd'hui, ce sera le tour d'Hervé, puisque Catherine est absente. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Donc, peux-tu nous dire quel est le titre du roman que tu as choisi ?
Bien sûr, j'ai toujours du mal à donner les titres de l'émission suivante, mais au moins le livre que je vais lire aujourd'hui...
Oui, alors, oui, je te pose la question, c'est purement formel, parce que comme c'est moi qui t'ai conseillé le livre, je sais de quoi il s'agit.
Donc, Dominique, tu m'as conseillé le livre de Sophie Bouillon, Manua Street. Et donc, effectivement, tu connais l'auteur, tu l'as déjà entendu.
Alors, Sophie Bouillon, je l'ai découverte lors d'une émission sur une chaîne sur Internet qui s'appelle Arrêt sur Image, qui s'occupe de traiter de l'actualité des médias. Et Sophie Bouillon était invitée en tant que correspondante de l'AFP à Lagos, au Nigeria. Et j'ai trouvé cette femme particulièrement intéressante. Ça m'a donné envie de lire son livre et je ne regrette pas de l'avoir lu.
Lagos, ça s'écrit Lagos, comme au Portugal, L-A-G-O-S, mais ça se prononce Lagos.
Lagos, à l'anglaise en fait.
À l'anglaise. Et j'ajoute, moi, que c'est une ville qui fait plus de 20 millions d'habitants, tout au moins la conurbation, où se déroule ce docu-roman. C'est comme ça que...
On pourrait dire docu-roman, oui, ça me plaît bien, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un roman, puisque on imagine que tous les faits qu'elle relate sont réels, c'est certainement,
on peut supposer,
certainement
oui,
vrai.
Oui. Mais par contre, ils sont romancés.
Alors, c'est romancé, parce que oui, elle parle un petit peu d'elle, mais c'est tout à fait intéressant, oui.
Eh bien, je crois qu'on peut commencer.
Eh bien, allons-y.
Allons-y. J'ai toujours apprécié que Lagos ne nous mente pas, qu'elle ne nous donne pas le choix. Le Nigeria est profondément inégalitaire, mais nous n'avons pas le luxe de pouvoir faire comme si nous ne le savions pas. Vivre à Lagos est un rappel à l'ordre permanent de nos privilèges. Achetez un yacht et invitez-y tous les businessmen les plus riches de la ville, ils seront toujours amarrés au milieu des déchets et des odeurs d'égout. Élevez des murs de votre villa tant que vous le pourrez, tentez donc d'ignorer le reste de la ville derrière les vitres teintées de votre 4x4. En partant travailler, vous verrez toujours ces dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants qui dorment, se lavent, pissent, défèquent, se coiffent ou s'habillent dans chaque rue, dans chaque conteneur ou bâtiment abandonné, dans chaque recoin, sur chaque mètre carré de la ville. On dit de Lagos que c'est le bidonville le plus cher au monde. Et si la planification urbaine n'est jamais parvenue à absorber son explosion démographique, elle n'a pas réussi non plus à rattraper les inégalités de son miracle économique et de ses rêves capitalistes. Et pourtant, bien que toutes les classes sociales vivent en apparence aux antipodes les unes des autres, elles interréagissent, elles se connaissent, elles échangent, elles partagent les mêmes religions et les mêmes cultures. De ce côté-là du monde, dans le Nouveau Monde, les privilèges ne sont pas transmis de génération en génération. Et 60 ans à peine après la décolonisation, les riches d'aujourd'hui restent toujours les pauvres et les opprimés d'hier. Quand bien même les Nigérians seraient des personnes les plus exubérantes et ostentatoires au monde, en grattant un peu, on se rend vite compte que personne n'a vraiment oublié d'où il vient. Aller au mariage de la fille du multimilliardaire Aliko Dangote ou de son valet de chambre, vous mangerez le même riz jollof, les mêmes ignames, vous danserez sur les mêmes tubes de whisky ou du dernier Burna Boy. J'ai longtemps habité en Afrique du Sud, et là-bas, la classe moyenne ou supérieure, blanche pour la plupart, pourrait très bien vivre des années entières sans jamais savoir où ni comment vivent les pauvres, noirs pour l'immense majorité d'entre eux. On ne les voit pas, sauf lorsqu'ils viennent travailler dans les beaux quartiers. Le régime d'apartheid a aménagé les villes de façon à ce que les townships noirs ou les ghettos soient totalement invisibles. Encore aujourd'hui, vous pouvez très bien vivre dans les quartiers les plus chics de Johannesburg sans avoir conscience que des centaines de milliers de personnes vivent dans la crasse, le froid et sous des tôles juste de l'autre côté de l'autoroute ou à quelques kilomètres de là. Paris ne vaut guère mieux. Et en France en général, les quartiers et les populations les plus précaires sont invisibles, hors de nos radars culturels et médiatiques. Si nous prolongeons d'ailleurs la métaphore du township sur plusieurs milliers de kilomètres, nous vivons de la même manière dans nos mondes occidentaux, derrière nos frontières et nos murs, sans connaître la réalité du reste du monde, ses souffrances, ses rêves et ses manques. En fermant les yeux sur notre propre opulence, notre consommation outrancière, nos chimères et nos besoins insatiables. La seule fois où j'ai vu les deux réalités du monde s'entrechoquer vraiment, c'était lors d'un reportage à Grand-Synthe, dans le nord de la France, pendant l'hiver 2016. Des dizaines de familles de Kurdes irakiens s'étaient réfugiées dans une forêt jouxtant un joli lotissement pavillonnaire près de Dunkerque, espérant pouvoir passer un jour en Angleterre. J'avais rencontré une habitante de ce quartier résidentiel et tranquille, une jeune mère de famille douce et profondément humaine. Elle passait ses week-ends à aider les associations, organiser des collectes de vêtements auprès de ses collègues et de ses amis. Quand bien même il lui était difficile de prendre son petit déjeuner le matin, de boire son café en écoutant les nouvelles du monde à la radio, de partir au travail, de se faire à manger, puis d'aller se blottir sous sa couette, quand juste en face de sa fenêtre, des enfants étaient transis par le froid. Elle ne pouvait plus fermer l'œil de la nuit, sachant qu'à 50 mètres de sa chambre à coucher, des dizaines d'hommes et de femmes dormaient sous des tentes quechua. Elle ne le supportait plus et vivait les volets fermés pour ne plus les voir. À Lagos, les inégalités sont saisissantes et parfois très dures à regarder en face. Mais les plus pauvres n'ont jamais vraiment été bloqués dans leurs rêves par une mer ou une frontière. Ils travaillent. Ce sont des « hustlers », comme on dit ici. Ils vivent de la débrouille et sont dans l'action permanente. On dit habituellement de Lagos qu'il s'en dégage une grande énergie, une force en puissance, sans vraiment s'expliquer pourquoi. C'est en réalité cette lutte coûte que coûte pour une meilleure vie qui fait avancer cette mégalopole tentaculaire. C'est son énergie, sa raison d'être et d'avancer. Les Nigérians sont de grands rêveurs et d'éternels optimistes, le peuple le plus optimiste du monde, paraît-il, et c'est probablement ce qui les sauve. Comme dans tous les pays ultra-capitalistes fondés sur des mythes de réussite spectaculaire, tout le monde ici connaît l'histoire du vulcanisateur, ce gonfleur de pneus devenu chauffeur du président de la Banque nationale, ou celle du gamin qui a grandi sur une décharge à ordures avant de jouer dans les meilleurs clubs de foot européens. No food for lazy man, c'est la terrible devise de Lagos. Elle est écrite partout, sur les coffres des minibus, devant les porches des maisons, dans les consciences et les esprits. Pas de nourriture pour les feignants. Elle claque comme une insulte, un coup de poing dans les estomacs vides. Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent, énonce la Bible dans le livre des Proverbes. L'islam considère également le travail comme un acte d'adoration envers Allah. Alors, malgré la saleté, les trous, les tragédies et l'abandon de l'humanité à elle-même, 20 millions de personnes, chrétiens et musulmans, vivent en communion, dans la certitude qu'en s'accrochant à ces deux entités parfaites, Dieu et le travail, demain sera toujours plus grand et plus beau. À Lagos, on ne dit pas « How are you ?» pour se saluer et se dire « Bonjour », on dit « How's work ?»« Comment va le travail ?» J'ai mis du temps moi-même à comprendre qu'il ne s'agissait que d'une simple question formelle. Alors, au début, je racontais ma vie. Et vous, alors, comment vont les affaires ? Mes interlocuteurs me regardaient avec des yeux ronds, ne comprenant pas pourquoi je partais dans ces détails qui, vraiment, ne regardaient que moi. Non, housework n'appelle qu'une seule et unique réponse. We thank God, on remercie Dieu et on passe son chemin. Enlevez le travail à Lagos et vous n'obtiendrez plus qu'une masse moribonde, à l'agonie. pendant ce confinement total qui aura finalement duré 5 longues semaines, ces 20 millions d'habitants ont suffoqué comme des poissons hors de l'eau. Le cœur de la ville a ralenti, son pouls est devenu presque insaisissable, imperceptible, j'ai bien cru de l'avoir perdu à jamais. Dès le premier jour, lorsque nous sommes sortis avec Pierre pour filmer les rues vides de la ville devenue fantôme, une dame d'une quarantaine d'années a tendu un billet de 200 neras devant notre caméra. 50 centimes d'euros. C'était toutes ses économies, tout ce qu'elle avait pour nourrir ses enfants ce matin-là et les jours suivants. Et s'ils tombent malades? Et s'ils attrapent le paludisme? Avec quoi est-ce que je vais acheter des médicaments, moi? Nous lançait-elle. Qu'est-ce qu'il va se passer? Dites-moi. Hein? Dites-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je n'aurai plus qu'à prier Dieu. Elle vendait d'habitude des sachets d'eau à 50 neras pièce, quelques centimes d'euros, mais tout comme elle, la plupart de ses clients n'avaient déjà plus d'argent. À cause d'une maladie dont ils ne connaissaient ni le nom ni les symptômes, ils avaient dû fermer leurs échoppes, leur garage, leur stand de jardinerie, leur salon de coiffure, abandonner leur taxi ou leur minibus. Les marchés alimentaires avaient reçu l'ordre d'ouvrir un jour sur deux, sans que l'on sache très bien quel jour était autorisé ou non. Les agents de police faisaient des descentes pour fermer des boutiques et récupérer des pots de vin les jours impairs, puis parfois, selon leur humeur, les jours pairs aussi. Les gamins transportant les marchandises dans leurs brouettes n'avaient plus le droit de circuler. Les vendeurs de viande grillée avaient reçu l'ordre de fermer. Les minibus se sont arrêtés, les étals des marchés se sont vidés un à un. Les femmes ne pouvaient plus vendre leurs tomates, même à prix réduit, même au rabais. Elles se lamentaient. Plus personne n'avait d'argent. La gosse avait faim et leurs tomates pourrissaient au soleil. Elles finissaient mangées par les mouches. L'économie informelle et les circuits de la débrouille s'étaient enrayés. Le monde semblait s'être arrêté de tourner et pendant ce temps-là, les circuits de fret aérien fonctionnaient toujours parfaitement. Chaque lundi et jeudi, les supermarchés recevaient leur cargaison de fraises d'Espagne ou de saumon de Norvège hors de prix. Des scènes surréalistes, alors que les ombres errantes, affamées, sortaient toujours plus nombreuses dans les rues malgré les ordres de confinement. Chaque course pour aller ravitailler nos frigos et nos placards était une épreuve de plus en plus difficile à supporter. Les mains se tendaient discrètement devant les voitures. Les visages étaient émaciés, les barbes hirsutes. Les femmes montraient leurs enfants qu'elles n'arrivaient plus à nourrir. La nuit, certaines se tenaient en robes trop longues sur les trottoirs d'Awolowo Road pour offrir leur corps à qui oserait défier le couvre-feu. Rapidement, les hommes les plus jeunes et les plus forts ont dressé des barrages de fortune pour forcer les automobilistes à leur donner de l'argent ou à manger. Partout à Lagos, on entendait cette même litanie « S'il vous plaît, on a faim ». Ceux qui ne nous avaient jamais rien demandé auparavant imploraient désormais notre aide. À Manua, nous faisions des dons de nourriture, des transferts bancaires à tout va, conscients qu'il ne s'agissait que d'une goutte d'eau dans un océan de besoins, qu'elle n'empêcherait pas l'asphyxie totale de la ville. On partageait, on donnait, on distribuait ce que l'on pouvait, comme pour éteindre un feu que nous savions déjà beaucoup trop étendu, incontrôlable. Face à l'urgence et à l'inaction des autorités, les citoyens se sont quelque peu substitués à l'État. Sur les réseaux sociaux, des collectes de dons ont commencé à voir le jour et des associations fondées à la hâte à faire des distributions quotidiennes de pâtes de manioc, de riz, sous la protection de militaires. Chaque gramme de nourriture était désormais devenu un trésor à protéger, armes à la main. Dans Manua Street, un élu local a lui aussi organisé des distributions alimentaires. Il avait pris le relais de ce que nous ne pouvions déjà plus assumer. Chaque samedi, il arrivait avec sa voiture chargée à ras-bord de sachets de pain de mie, de bouteilles d'eau, de cartons de pâte à chinoise. Je regardais depuis ma fenêtre cette file d'affamés s'allonger de semaine en semaine. Discrètement, j'observais ces silhouettes pour savoir si je les avais déjà croisées dans le monde d'avant. quand leur survie ne dépendait que d'eux-mêmes, je fixais ces enfants, ces vieillards, ces femmes, ces hommes, ces jeunes hommes forts, pleins de rêves et de talents, tous transformés du jour au lendemain en mendiants. Nous étions entourés de gens qui avaient faim. J'y pensais jour et nuit. Mon estomac rempli de nourriture était devenu une obsession. Leur estomac vide était devenu mon angoisse. Jusqu'à quand le gouvernement allait-il imposer cette mesure qui n'avait déjà plus de sens? Verrions-nous des morts de faim dans les rues à défaut de voir des morts de Covid? Que ferait-il le jour où il n'y aurait absolument plus rien à manger? Après 2 semaines de confinement seulement, nous ne pouvions déjà plus aller sur le mainland et dans les quartiers populaires surpeuplés. Chaque déplacement, chaque reportage provoquait des mouvements de foule incontrôlables. En tant que journaliste, dans n'importe quelle autre ville du monde, nous ne nous serions jamais posé la question d'aller couvrir une émeute, une manifestation ou pas. Mais Lagos est un monstre immense et tentaculaire. Et si le monstre se déchaîne, vous n'avez plus nulle part où aller, nulle part où vous cacher et vous réfugier. Nous nous étions résignés à écrire nos dépêches par téléphone et tous les jours ou presque, nous recevions des appels ou des messages de gens paniqués ou en pleurs. La police ne faisait pas son travail, disait-il, ou le gang des One Million Boys prenait quartier après quartier le contrôle de la ville. Tout le monde affirmait les avoir vus, les avoir entendus, telle une ombre invisible et probablement fantasmée planant sur Lagos. La peur montait, s'échangeait, se partageait sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. À la 3e semaine de confinement, Lagos s'est barricadé. À l'entrée des rues se dressaient des barrages de fortune faits de pneus brûlés pour défendre les maisons des pillages et des cambriolages. Pendant qu'en Europe, tous les soirs, on applaudissait aux fenêtres pour donner du courage aux soignants, Lagos tapait dans des casseroles et des bidons pour effrayer les criminels et éloigner les affamés. On secouait des cloches de la tombée de la nuit jusqu'au lever du soleil pour protéger les voisins, la famille et la communauté. Quelques semaines auparavant, ils étaient fonctionnaires, professeurs, comptables, libraires. C'étaient mes collègues de bureau. Ils se sont transformés du jour au lendemain en miliciens armés de couteaux et de machettes. À la 4e semaine de confinement, au 30e jour consécutif d'angoisse et de silence, je suis sorti de mon lit un peu vaseuse. Le ciel était gris, sombre, mais la lumière du jour remplissait déjà le salon. J'ai regardé par la fenêtre et aperçu mes voisins debout sur leur balcon en train d'observer la rue. De l'autre côté du mur, derrière notre haut portail noir, Manua était rempli de monde. 2 longues files de gens s'étendaient jusqu'au bout de l'impasse. Tout le monde était incroyablement calme et ordonné, compte tenu des circonstances et de ce qu'il se passait dans le reste de la ville. Ils étaient plus de 200 à attendre en silence un sachet de pain. 300 peut-être, j'ai senti mon souffle se couper, mon cœur se durcir un peu plus. Puis j'ai tiré mes rideaux, résigné, en priant doucement qu'ils disparaissent et que plus jamais je n'ai à les revoir. We'll be right back.
the same.
Avez compris, ce document est très récent et a été écrit pendant le premier confinement. Mais on s'aperçoit que nos deux nations, le Nigeria et la France, ont vécu cette période de façon un petit peu différente.
C'est le moins qu'on puisse
dire. J'ai eu plus d'une fois des discussions avec des amis pendant lesquelles je dis souvent, parce que suite à un voyage, parce que je ne voyage pas que dans les livres, Dominique, je dis que la situation française n'est pas si mal en comparaison d'autres pays. Mais j'ai des amis, et surtout l'un d'eux, je dois dire, je pense à l'un d'entre eux qui me reprend en me répondant que ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'on doit automatiquement fermer sa gueule. Ou alors, si on est obligé de se taire, eh bien, ça peut s'appeler une dictature. Et là, je me tourne vers toi, Dominique. T'en penses quoi, toi, à ce moment-là ?
Alors, le mot dictature, les mots ont un sens, il faut peut-être un petit peu relativiser. Et puis, faire face à une pandémie et donner des conseils de soins ou imposer des conseils qui doivent s'imposer à tous pour des raisons de propagation, moi, ça ne me semble pas aberrant. Mais peut-être que je vais me faire des ennemis en, en disant ça à la radio.
Toujours est-il que cette première rencontre avec les gosses est saisissante. Alors, parlons un peu de Lagos. Bien que ce soit la plus grande ville du Nigeria, ce n'en est pas sa capitale. La capitale, c'est Abuja. Alors, je ne sais pas comment le prononcer.
Abuja.
Abuja, d'accord. Oui. C'est situé au cœur du pays. Ça, j'ai regardé sur une carte. Alors que Lagos, c'est un port situé dans le golfe du Bénin.
Tout à fait.
Lui-même situé dans l'Atlantique.
Voilà. Si vous voyez un petit peu le creux de l'Afrique, là, c'est dans le creux.
C'est dans le creux, exactement, au milieu du creux. Voilà. Lagos était quand même l'ancienne capitale qui avait été créée par les Portugais et qui a été capitale, je reprends mes lunettes, jusqu'en 1991. Donc 20 millions d'habitants, je l'ai dit, c'est énorme.
C'est énorme, 20 millions d'habitants.
Alors, aucune comparaison avec Paris, c'est beaucoup plus grand que Paris. C'est plus grand que le Caire, je croyais que le Caire était
le Caire, c'est énorme. Et alors, ça, il y a Lagos qui a 20 millions d'habitants, et il y a une autre ville à côté dont j'ai oublié le nom, qui est plus petite, qui ne fait que 15 millions.
Oh, mais... un village. J'utilise parfois, moi, l'expression « ville-monde » pour décrire des villes telles que Paris ou Londres, par exemple. Lagos, d'après le bouquin, là, vraiment, c'est vraiment une ville-monde où se croisent plein de gens, plus d'ethnies,
plusieurs villes dans une ville, d'ailleurs.
Oui. Donc, Sophie Bouillon.
Tu disais, attends, que c'est un pays multiethnique.
Oui, multiethnique, oui, voilà. Oui, tout à fait.
Oui, parce qu'il faut savoir que au Nigeria, les gens sont à peu près 200 millions et il y a 100 millions de chrétiens, 100 millions de musulmans à peu près.
Oui.
Voilà. Les chrétiens étant plutôt au sud du pays et les musulmans plutôt au nord.
J'ai lu plusieurs fois dans la première partie tout à l'heure le terme Manua Street. Et Manua Street,
c'est le nom de la rue
où vit Sophie Bouillon. Donc, on va en parler maintenant. Alors, c'est vrai que l'on va devoir rester enfermé le temps que le virus chinois disparaisse, m'avait demandé Abdul, grand gaillard d'une trentaine d'années, la veille du confinement. Il était assis torse nu sur le bord du trottoir de Manua Street, à l'ombre d'un grand arbuste épineux, et fumait un joint. Il écrasait des graviers du coin de sa chaussure et secouait sa tête d'incompréhension. On va devoir s'enfermer jusqu'à quand ? Peut-être pas jusqu'à ce qu'ils disparaissent, mais jusqu'à quand alors ? Je n'en ai aucune idée. Mais ça sert à quoi ? C'est pas possible. Comment on va faire, nous ? Abdul gagnait quelques milliers de néras, c'est-à-dire quelques euros, par semaine en surveillant le parking d'un complexe de restaurants et de boîtes de nuit à quelques pas de chez moi. Tous les vendredis et samedis soirs, avec une dizaine d'autres gars sans boulot, ils couraient après les voitures pour aider les conducteurs à se garer et récupérer au passage quelques billets. On s'était rencontrés un soir où j'étais sorti dîner. J'avais fait tomber par mégarde mon porte-monnaie sur le trottoir et Abdul m'avait couru après pour me l'apporter. « Merci, merci beaucoup, c'est vraiment gentil », avais-je soufflé un peu honteuse d'avoir été si négligente. « Pas de problème, madame, c'est normal, je vous ai reconnue. Moi aussi, j'habite dans Manua Street », avait-il lancé. « Ah oui, on est voisins alors ?» En réalité, nous étions bien sûr plus que des voisins. Abdul avait grandi jusqu'à l'âge de ses 15 ans sur le terrain de mon immeuble. Avant, il y avait des baraques, paraît-il, un long bâtiment de plein pied en béton où vivaient plusieurs dizaines de familles, des mécaniciens, des enseignants pour la plupart. Et un jour de novembre 2006, un bulldozer était arrivé et a tout rasé. Au numéro 12 de l'impasse, s'est dressé un long bloc gris de 4 étages avec ascenseur, terrasse, balcon et climatisation. Mon immeuble. De l'autre côté de la rue, il y avait aussi un immense garage, m'a-t-on raconté. Il n'en reste plus qu'un grand terrain vague marécageux. Les mécaniciens, eux, se sont déplacés dans la rue et retapent désormais les carrosseries et vidangent les moteurs à même le trottoir. Les parents d'Abdul sont partis vivre chez une tante dans le mainland. Mais tous les jeunes garçons des familles délogées sont restés à Manua, conscients que, même à la rue, cela reste un privilège de vivre sur les îles. Une douzaine d'entre eux, désormais, vivent sur les toits des voitures en réparation ou à l'intérieur de vieilles carcasses irrécupérables dont les coffres ont été transformés en placards. Ils y empilent soigneusement leurs habits propres. D'autres squattent parfois des salles de classe de l'école primaire et Auntie Ayo International School en soudoyant les gardiens à la nuit tombée. Abdul et les autres ont construit un petit poulailler au pied de notre immeuble et vont y chercher des œufs chaque matin pour leur petit déjeuner. Ils ont apporté un vieux jacuzzi en plastique, je ne sais d'où, qu'ils remplissent au seau pour y faire leur lessive. Ils ont installé un coin sur la douche au-dessus de la rivière d'égout, caché derrière la vieille bâche publicitaire d'une église promettant succès et réussite sur la voie du Seigneur. On échangeait quelques politesses et quelques signes chaque fois que j'entrais chez moi, mais toujours avec un malaise palpable. Alors, la première année de mon emménagement, j'avais décidé d'organiser un repas de Noël dans la rue avec Rijolof et Afropop. J'avais loué des chaises, des tables et des enceintes pour tenter de faire tomber ce haut portail qui nous sépare. Tout le monde n'avait pas apprécié. Lucas s'était énervé, l'esprit déjà échauffé par les vapeurs de marijuana et d'alcool de la journée. Il criait « Elle nous prend pour qui, la blanche? On veut pas de ta charité? Tu nous prends pour des mendiants, c'est ça ?» Celebrity, le plus petit d'entre eux, mais aussi le plus ancien, avait tenté de le calmer et après quelques bières, Lucas nous avait finalement rejoints pour faire la fête. Des années plus tard, il m'a offert un t-shirt avec écrit « Manua Street » en orange sur le devant et « Made in Nigeria » juste derrière. Avec Célia, une amie, on descendait parfois pour boire des bières avec Femi, Kazem, Taïk, Abdul ou Celebrity. On s'asseyait avec eux sur le capot des voitures ou sur le bord du jacuzzi vide. C'était notre petit monde à nous au milieu de la folie de Lagos. Par le bouche à oreille ou par pur hasard, beaucoup de mes amis les plus chers ont habité à un moment ou à un autre dans cet immeuble du numéro 12. On aimait tellement notre rue qu'elle était devenue synonyme de « chez nous ». T'es déjà rentré à Manua ? Tu m'attends pour dîner ? En rentrant du bureau, on se posait sur les balcons des uns et des autres pour se raconter nos journées pour refaire le monde et le Nigeria. Et pendant ce temps-là, les gardiens des immeubles de la rue se levaient au son de l'alarme de la NEPA et partaient en remettre en marche ou éteindre les immenses générateurs à diesel au gré des coupures d'électricité. Une année, le voisin du premier avait acheté des gyrophares de police qu'il avait installés sur le toit de sa voiture. Une énorme imposture permise uniquement dans des pays sans loi. On l'entendait chaque soir débouler sirènes tonitruantes de l'autre bout du quartier. Il roulait à toute vitesse à travers la rue, pendant que les gamins jouaient au foot ou que les musulmans faisaient leurs prières du soir sous le grand manguier. Les jours passaient et on n'en revenait toujours pas. Non, mais sérieusement, le mec a acheté des gyrophares de police. Il pilait devant le portail et klaxonnait sans discontinuer jusqu'à ce que Paul, notre gardien, lui ouvre. Agacé par ses caprices, Paul prenait tout son temps. Il retirait les béquilles métalliques avec insolence. Tchac, tchac, et poussait les hautes portes noires avec un flegme non dissimulé. Le voisin se garait d'un coup de volant sec, tirait le frein à main et sortait comme une furie de son 4x4 Range Rover flambant neuf et criait « Tu penses que je n'ai pas mieux à faire qu'à attendre que tu te réveilles de ta sieste, c'est ça ?» Paul ne répondait rien, refermait le lourd portail noir en traînant des pieds et levant les yeux vers le balcon nous lançait un clin d'œil complice en souriant. La colère de cet homme qui se voulait important était son jeu, sa victoire personnelle sur les puissants. On pouvait passer des heures à regarder ces scènes défiler. Célia disait toujours que cette rue, à elle seule, raconte Lagos. Lagos, pardon Dominique. Elle disait toujours, un jour, il faudra réécrire un livre sur Manua.
Sorry, is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. of you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you.
Que je vous parle un petit peu de Sophie Bouillon. Ceci dit, je n'avais jamais entendu parler d'elle avant ce livre, Dominique, alors que toi, donc, tu la connaissais.
Je te confie que je l'ai découverte récemment, je te dis, grâce à cette émission sur Arrêt sur Image.
Je lis tout simplement Wikipédia. Elle a obtenu le prix Albert Londres pour son roman Bienvenue chez Mugabe. Elle est basée à Johannesburg. Elle a travaillé comme correspondante pour Libération.
Elle a été basée à Johannesburg.
Elle a été basée, oui. Elle a travaillé pour Libération, Courrier International. Elle a travaillé à la radio-télévision suisse, puis comme reporter indépendante pour l'Obs, Libé, Europe 1. Elle a fait la couverture de Boko Haram au Nigeria, série de reportages sur Lagos. Elle a suivi la guerre à l'est du Congo en 2012. Mais excusez du peu pour cette jeune femme, quoi, qui est née en 1984. C'est à peu près ton âge, ça, Dominique, n'est-ce pas?
À peu près, oui.
Et puis enfin, en 2016, elle finit par poser ses valises à Lagos. Normal, elle a 32 ans. C'est vieux, 32 ans, quand même. On a envie de prendre sa retraite. Bon, j'ai envie maintenant de prendre des extraits épars du livre pour décrire Lagos. La plage de Lighthouse est selon moi le plus bel endroit de Lagos, le plus fascinant surtout. Elle s'étend à perte de vue jusqu'au Bénin voisin. Des dizaines de kilomètres de sable bordés de palmiers et de mangroves et frappés par les vagues de l'Atlantique. Le rivage est parsemé d'épaves de bateaux gigantesques, de porte-conteneurs échoués ou de tankers que des armateurs abandonnent discrètement dans cette région du monde où plus rien n'a d'importance. Qui le saura de toute façon? Laisser couler sa flotte vieillissante au large de l'Afrique de l'Ouest est une solution à moindre coût, loin des regards et des conventions environnementales signées à New York ou à Genève. Les plages de Lagos sont devenues des cimetières de bateaux. Lorsque ces immenses carcasses, aussi hautes que des immeubles, dérivent suffisamment près du bord et que leur équipage a fui, accourent alors des hordes d'anonymes pour les désosser. C'est un travail herculéen, une besogne de petites fourmis, pièce par pièce, jour et nuit, sous des pluies battantes ou les chaleurs accablantes, à la corde, à la main ou à la scie à métaux. Des dizaines et des dizaines de charognards humains transforment ces carcasses marines en squelette de ferraille. Bientôt, il n'en restera que quelques pans de métal découpant l'écume des vagues de ce que le monde a abandonné. Ils nourriront leur famille jusqu'au prochain naufrage. « Les côtes d'Afrique de l'Ouest sont bordées de navires, de porte-conteneurs, de pétroliers qui se succèdent en file indienne. Le Nigeria, marché immense de 200 millions d'habitants, pourrait ne manquer de rien. Mais à quoi bon investir dans des plantations d'huile de palme ou de noix de coco lorsque l'or noir coule à flot ? Qui serait assez fou pour construire des usines d'assemblage de voitures ou de textiles dans un pays où il n'y a pas d'électricité ? L'avidité pour le pétrole a détruit un à un tous les secteurs autrefois florissants de son économie. Le géant de l'Afrique a désormais besoin de tout, de pétrole raffiné d'Inde ou des Pays-Bas, de voitures d'occasion de Houston et d'Atlanta, de bassines en plastique ou encore de faux Gucci made in China. Les côtes d'Afrique de l'Ouest font partie des routes maritimes les plus empruntées au monde. Elles sont les plus dangereuses aussi. Chaque jour, chaque nuit, l'équipage des cargos venus du monde entier, d'Inde, du Bangladesh, de Russie, d'Ukraine ou d'Indonésie, attend de pouvoir décharger leur cargaison, risquant de se faire kidnapper ou attaquer par des pirates. La crise du coronavirus et le confinement avaient encore davantage ralenti l'activité du port, ultra congestionné et trop corrompu. Immobiles sur la ligne d'horizon, les marins avaient vécu là des semaines durant, au large entouré de l'immensité de l'eau, sous une menace permanente et un ennui redoutable. Au milieu de l'océan et de l'obscurité, ils ne voyaient du monde que la lumière de la mégalopole. Savaient-ils que le reste de l'humanité s'est arrêté de respirer ? Au Nigeria, personne ne sort dans les rues. On ne manifeste pas, sauf peut-être pour les groupes religieux ou identitaires auxquels on appartient. On peut passer des heures à se plaindre du pays, tout ça pour conclure par un « God save us », las et découragé. Un pasteur m'avait un jour confié « Vous vous rendez compte que tous les jours nous sommes 200 millions à prier pour un meilleur Nigeria et on en est encore là ». Vous imaginez dans quel état serait le pays si on ne priait pas ? Cela m'avait fait rire, mais je crois qu'il était très sérieux. Il fallait bien justifier son 4x4 SUV, sa grande maison à Lagos et sa villa au Texas. Il devait quand même bien y avoir quelques interventions divines par-ci par-là, sans que l'on s'en rende bien compte. Je ne comprends pas comment il était possible d'endurer des embouteillages sans fin sous 45 degrés sans broncher des heures durant. Je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi le premier exportateur de pétrole d'Afrique devait encore supporter des pénuries d'essence, une injustice abjecte, des détournements de fonds inimaginables et n'éprouvait pas une furieuse envie de hurler, de renverser le pouvoir et les responsables de ce malheur. J'ai longtemps confondu cette abnégation avec une forme de soumission et de servilité. En réalité, les Nigérians ont appris à s'adapter à tout et peuvent transformer des obstacles les plus insurmontables en sources de revenus. Pas d'électricité ? Les plus riches font fortune en important des groupes électrogènes et les autres louent leurs générateurs aux voisins à prix d'or. Pas d'eau, on creuse des puits dans les rues et les jardins. Le Naira s'effondre, on devient conseiller en investissement et de crypto-monnaie après avoir suivi les tutos Bitcoin sur YouTube. Ce sens de l'ingéniosité et de la débrouille face à l'adversité est une force autant qu'une malédiction.
Shame, oh shame, babe.
Pas beaucoup d'action jusqu'à présent, en dehors de la ville elle-même, n'est-ce pas Dominique ?
Oui, mais c'est pas pour ça que c'est inintéressant.
Exactement. Normal, donc on était dans le côté docu du bouquin, puisque j'ai dit que dans le genre, oui, c'était un docu-roman. Mais donc, l'action, elle arrive en fait dès le début de ce bouquin. Je reviens donc en arrière, dans les premières pages, pour extraire un passage que j'ai appelé moi-même l'explosion. J'ai rédigé un mail à la rédactrice en chef à Paris. Bonjour, en route avec Lisa sur une grosse explosion due au gaz à Abulado, dans la périphérie de Lagos. Benson, photographe, est déjà sur place. Gros dégâts. Un quartier entier a été rasé, se préparer pour alerte. Texte, photos et vidéos à recevoir rapidement. Amitié, Sophie. Nous n'arriverions jamais à temps. Nous étions complètement bloqués dans les embouteillages. Notre chauffeur de taxi tapait frénétiquement sur son volant et Lisa, assise à côté de moi, scrutait Google Maps. Pourquoi avions-nous attendu tout ce temps avant de partir ? On était en plein milieu de l'après-midi, mais des vidéos tournaient depuis le matin sur les réseaux sociaux. On y voyait des maisons soufflées par la déflagration, des flammes assez hautes que des immeubles, des foules hurler et appeler au secours. L'explosion avait été ressentie sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde et les vitres des habitations avaient tremblé jusque sur les îles. Les dégâts semblaient considérables et le nombre de victimes devait être très important. Et malgré tout, pendant plusieurs heures, on s'était demandé avec mes collègues s'il fallait ou non aller couvrir l'événement. Qui allait s'intéresser à une explosion à Lagos à la mi-mars 2020 ? Quelle importance pourrait-elle avoir à l'échelle du monde ? Quels médias s'en feraient l'écho ? La France votait et commençait à paniquer, les plus grandes économies étaient en train de s'effondrer, l'Italie était déjà confinée et partout dans le monde, les gouvernements prenaient des mesures jusqu'alors inimaginables. Ma sœur, médecin à Mulhouse, m'avait appelé le matin même pour me raconter sa semaine de consultation. Cela faisait un moment déjà qu'elle recevait des patients atteints du coronavirus. Une simple grippe, d'après elle. Mais ce matin-là, son ton était devenu alarmiste. Ils étaient toujours plus nombreux, trop nombreux. Il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Le SAMU ne prenait plus ses appels. « J'ai l'impression de vivre dans un film », m'avait-elle lancé. « Je ne comprends pas ce qui se passe ». Ici, le virus avait été détecté 2 semaines auparavant, mais il ne semblait pas se propager. On continuait à couvrir nos faits divers du quotidien. J'actualisais sans cesse Twitter pour trouver de nouvelles vidéos de l'explosion. Qu'est-ce qui a bien pu causer une telle déflagration ? Des camions transportant de l'essence ? Un simple camion-citerne n'aurait jamais pu faire autant de dégâts ? Un attentat ? Peu crédible. Il y avait bien une usine de gaz, pas très loin, ou un pipeline, avançait-on sur les réseaux. Chacun y allait de son interprétation, en 280 caractères. Nous espérions trouver plus de réponses une fois sur place. Notre collègue photographe nous envoyait des messages et s'inquiétait de notre retard. « Vous êtes où ? On arrive, on arrive. Encore 1 heure de route. Il y a des bouchons partout. » Dehors, il faisait une chaleur à crever, une pollution étouffante. Mon regard se perdait dans ce labyrinthe de voitures, de minibus jaunes, de camions brinque-ballants et de motos. Les pare-chocs se frôlaient, les rétroviseurs s'entrechoquaient. Chaque voiture forçait son passage. Les chauffeurs n'échangeaient aucun regard, mais gardaient la main sur le klaxon sans discontinuer. Ils n'avaient plus la force de s'insulter. Les vendeurs à la sauvette zigzaguaient avec leur chargement de coca frais ou de chips de banane plantain sur la tête. Le visage dégoulinant de sueur, il courait derrière les voitures, accélérant ou ralentissant au rythme du trafic. Sous ma fenêtre, un petit vendeur de beignets se tenait à genoux sur la route, les 2 mains tendues vers le ciel. Toute sa cargaison avait été renversée par un conducteur imprudent et impatient. Le gamin regardait son trésor se faire écraser par les voitures, les yeux remplis de tristesse et de résignation. On se rapprochait du quartier d'Abulado et la foule devenait plus compacte encore. Des centaines et des centaines de personnes étaient venues assister à la tragédie dont tout Lagos parlait depuis ce matin. Le chauffeur a ralenti et Lisa lui a demandé de nous attendre sur le bas-côté de la route. « Mettez-vous dans le sens du départ au cas où on devrait partir en urgence. À tout à l'heure. »« Ok, à tout à l'heure et ne tardez pas trop. » Une immense colonne de fumée noire s'élevait dans le ciel. Des flammes de plusieurs mètres de haut, jaunes et rouges, compactes, continuaient à jaillir de terre. L'air était brûlant. Quelques camions de pompiers forçaient leur chemin à travers la foule. Et tout autour de nous, à 1 kilomètre à la ronde, des décombres, des maisons explosées, des immeubles écroulés, une église éventrée. Le souffle de l'explosion avait tout balayé sur son passage. Les fenêtres des toits, les murs, les ponts avaient été soufflés. Partout où le regard pouvait encore se poser, il ne restait plus rien. On aurait dit une ville bombardée. Nous traversions désormais la foule, frayant notre passage à travers les yeux curieux ou interrogateurs qui se posaient sur nous. Femmes, blanches, journalistes, et tout autour de nous le chaos. J'y étais habitué. Plutôt sûr de moi et de ma mission, je prenais des photos pour me souvenir de certains détails. Des notes pour ma future dépêche, moto calcinée, pont en métal détruit, panneau entre école Bethlehem Secondary School au milieu des décombres. Nous tâchions de rejoindre notre collègue Benson qui nous attendait de l'autre côté du cratère de feu, seul point de convergence au milieu du néant. Nous marchions côte à côte avec Lisa, le regard droit et le pas assuré, lorsqu'un homme a lancé « Attention, ces blancs-là, ils apportent le virus !» Nous avons échangé un bref regard avec Lisa pour être sûr que nous avions entendu la même chose. Mais nous avions continué à avancer comme si de rien n'était, sans dire un mot. Les premiers cas de coronavirus en Afrique de l'Ouest avaient été détectés parmi des Européens de retour de vacances. Dans la rue et dans les esprits, le virus chinois était rapidement devenu le virus des Blancs. Tout autour de moi, je sentais les regards se faire plus insistants encore. C'est en tout cas ce qu'il m'a semblé. S'agissait-il d'une simple plaisanterie? Était-il sérieux? Deux ou trois personnes se sont mises à rire autour de nous et dans ma poche, ma main tremblait. Il aura suffi d'un seul homme, d'une seule phrase lancée au milieu d'une foule de milliers de personnes pour que je me sente pour la première fois au Nigeria extrêmement vulnérable, exclu. Je n'étais pas à ma place, j'étais l'autre, le danger. Cet homme, sans le savoir, me le rappelait. Un simple mouvement de foule ou une autre menace, et c'en était fini. Mes deux continents se rejoignaient donc ici, à Abulado. Nos histoires convergeaient et allaient se mélanger. La réalité de Mulhouse allait-elle devenir celle de tous ces gens ? Cet homme avait probablement fait une blague, mais il avait raison. Nous avions été en contact tout le week-end avec des expats ou des Nigérians qui revenaient de voyage. On avait fait des dîners, on s'était embrassés, on avait dansé, on était sortis au W Bar, immense boîte de nuit au bord de l'eau. Vendredi soir, je m'amusais encore de voir les Nigérians trinquer à la bière Corona. Quelle insolence, quel pied de nez à la vie, quelle chance avions-nous d'être ici alors que le reste du monde paniquait ? On riait. D'habitude, la maladie est associée aux pauvres, à la crasse, les épidémies à l'Afrique. L'Occident avait fait semblant d'avoir peur d'Ebola, tout en étant persuadé que c'était une maladie cantonnée aux forêts sauvages, à l'autre côté du monde. Mais pour la première fois, les rôles étaient inversés. Le corona était le virus de la mondialisation et j'étais devenu vecteur de transmission entre les îles, ces quartiers privilégiés et ouverts sur l'extérieur, autant qu'ils sont coupés du reste du Nigeria et cette périphérie reculée, surpeuplée, qui n'avait rien demandé et déjà tout perdu. Ici, les conséquences seraient bien plus terribles, j'en étais certaine. Elles seraient incontrôlables et j'en serais responsable. On enchaînait les interviews, Lisa filmait et je continuais à poser des questions, mais en gardant constamment un œil sur la foule. Je ne voyais plus que les gens, le monde. Je voyais notre virus de riche s'y infiltrer partout. Derrière une haute porte de pierre, à moitié effondrée, une femme cherchait des vêtements déchirés dans les éboulis de sa maison. Elle fourrait les derniers vestiges de son passé dans un sac. Je suis resté loin d'elle. « Est-ce que je peux vous poser quelques questions ? Quel est votre nom ? Vous habitez ici ? Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Je notais les réponses comme une automate. Je faisais consciencieusement mon travail. Je lui parlais, mais je ne la voyais pas. Tout ce dont je me souviens, c'est que son regard était vide, hébété. Elle s'exprimait par monosyllabes, trop occupée à ramasser les restes de sa vie. J'ai écrit « Amuka Shioma », cuisinière du lycée, 32 ans, t-shirt jaune, jean délavé, en train de préparer à manger pendant l'explosion. Plus de 200 élèves dans l'école, selon elle, toutes des filles, ne sait pas combien sont mortes. C'est tout ce qu'il me reste, je n'ai plus rien. Part vivre chez sa sœur, vêtements déchirés dans un sac de sport. Nous avons continué notre chemin. En contrebas de la route, des bâches en plastique noir étaient entreposées sur le sol, des sacs poubelles. Ils contenaient probablement des corps démembrés, pensais-je. Y avait-il des têtes, des bras, des bouts de jambes ? Y avait-on fourré des restes d'humains ? Des morceaux de corps à la hâte, comme des morceaux de tissu déchirés ? Ils étaient cinq. Un homme a surgi derrière moi pour me décrire la scène comme s'il avait entendu les questions qui se bousculaient dans ma tête. Ils étaient cinq dans cette voiture. Je me suis écarté brusquement pour éviter son contact. J'avais envie de lui hurler de ne pas s'approcher de moi, de reculer, mais il n'avait visiblement pas peur. Alors je n'ai rien dit, je suis restée silencieuse, les lèvres serrées, pendant qu'il poursuivait son explication. « Elle est là, la voiture, les morts. Ils étaient dans cette voiture, vous voyez ?» Leur véhicule était juste devant nous, à quelques centaines de mètres à peine, entièrement calciné. Ils allaient à l'église, ils étaient en retard pour la messe, et ça a explosé. Ils sont tous morts sur le coup. Je les ai imaginés, ces cinq inconnus, entassés dans leur voiture, Bible à la main, dans leurs beaux habits du dimanche. Ils avaient dû se maudire d'arriver en retard à l'office, après les premières prières et les chants d'ouverture. Ce sont toujours les plus beaux, les plus poignants. L'explosion avait eu lieu en début de la messe, et tout le bâtiment s'était effondré sur les fidèles. Il n'en restait plus que des morceaux de béton et de tôle froissée. Une pelleteuse cherchait les corps dans les décombres. « Il y avait beaucoup d'enfants, murmurait-on dans la foule. Des jeunes filles de l'école, des agents de police et des services de secours tentaient de maintenir les curieux à distance. Des familles, des voisins, rangés dans une longue ligne compacte, regardaient la scène, inquiets. Ils attendaient de savoir qui le monstre de métal allait bien pouvoir faire sortir de ses gravats. Benson nous attendait là. Il était sur les lieux depuis la mi-journée. Nous avions beau prétexter que les embouteillages nous avaient retardés, nous étions partis beaucoup trop tard. Et pourtant, des heures après l'accident, personne n'en savait beaucoup plus sur les circonstances du drame ou le nombre de victimes. La lumière du jour commençait à faiblir et la journée du débrayage mortuaire allait bientôt prendre fin. La Croix-Rouge avait recensé une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Ils étaient sans doute davantage, bien plus devaient être coincés, bloqués ou écrasés sous les décombres. Comment les compter ? Comment savoir ? Il faisait presque nuit désormais et les pompiers tentaient toujours d'éteindre cette colonne de flammes qui ne voulait pas se calmer. Le ciel était noir de pollution et les esprits échauffés par l'incompréhension et le désespoir. Il ne fallait plus traîner. Nous nous sommes engouffrés dans la voiture et sur le chemin du retour, on a envoyé la dépêche et les images à Paris. Nigeria, au moins 19 morts dans une explosion à Lagos. Au moins 19 personnes ont été tuées, plusieurs dizaines blessées et des dizaines de bâtiments dont un pensionnat de jeunes filles ont été détruits dans une explosion survenue dimanche à Lagos, la capitale économique du Nigeria selon les services de secours. L'explosion survenue vers 8 heures aux abords d'un pipeline dans le quartier résidentiel d'Abulado a détruit une cinquantaine de maisons, une église, des magasins, un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves, a été soufflé par l'explosion ressentie à plus de 15 km à la ronde. Voilà ce que nous avions écrit. On continuait à rouler à travers Lagos, mais j'ai fermé les yeux pour ne plus voir le monde, ses trottoirs, ses rues et ses marchés bondés. Une fois arrivé chez moi, j'ai retiré tous mes vêtements et je les ai roulés en boule dans un sac de plastique que j'ai jeté le plus loin possible à l'autre bout de la pièce. Était-ce à cause du virus ou de leur odeur de fumée ? Leur puanteur d'essence et de sueur, je ne sais plus très bien. J'ai pris une douche, je me suis frotté frénétiquement la peau, les cheveux, le visage, je me suis rincé à l'eau claire. En 15 années de reportage, je n'avais jamais couvert pareille tragédie. Je n'avais jamais vu de scène aussi dantesque de ma vie. Et pourtant, une fois débarrassé de cette odeur d'incendie et de mort, j'ai quasiment aussitôt oublié ma journée. J'ai dîné devant les infos, la France avait fini de voter et rentrerait bientôt en confinement à son tour. J'ai envoyé quelques messages à ma famille et à mes amis, j'espère que vous tenez le coup, je pense à vous et je suis allé me coucher. Je ne pensais déjà plus à la pelleteuse ou aux décombres, à l'explosion et à la fumée noire. Je ne pensais plus qu'au virus, je ne pensais plus qu'à Mulhouse et à tous les milliers de survivants d'Abulado que j'étais persuadé d'avoir infectés malgré moi.
Nous sommes arrivés au terme de ce Manua Street de Sophie Bouillon. Je n'ai pas retenu le nom de l'éditeur. C'est édité chez... Ah, je ne connaissais pas. Premier Parallèle. Ça te dit quelque chose, cette maison?
Non, absolument rien. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis pas intervenu. C'est parce que je ne connaissais pas cet éditeur.
D'accord. Ouais. Bien, un livre, je trouve, particulièrement fort, quand même. Hein.
Puissant, oui. Vraiment.
Particulièrement
vraiment.
Fort.
Je te remercie, Dominique, de me l'avoir présenté pour le lire pendant l'émission, parce que ça nous change des romans habituels. Ça nous indique qu'il se passe autre chose sur la planète. Ça nous donne un autre sens, je trouve. Une autre vision de ce qu'on vit aussi.
Une façon de voir le monde d'un peu plus haut, disait je ne sais plus qui dans sa chanson. Voilà. Eh bien, merci Hervé pour cette lecture. Nous allons nous retrouver le mois prochain.
Le mois prochain, ça sera
pour
Catherine.
Un nouveau livre. Okay. Et ce sera certainement Catherine, donc je ne te poserai pas la question rituelle. Tu vas y échapper cette fois.
Ce sera Catherine, c'est certain.
Allez, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et au mois prochain.